bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ma crypte, je suis Dan et vous écoutez Podcast Creepy Story. Au programme de ce soir, deux contes terrifiants. Vous pourrez vivre l'horreur de la découverte d'un carnet au contenu sanglant et l'étrange histoire d'un restaurateur face à un client récalcitrant. Vous êtes prêts? Alors, commençons avec cette première partie que j'ai intitulée « Le petit carnet noir ». Vous êtes au cœur de l'histoire, vous êtes au cœur de l'horreur. Le réveil sonne. Vous vous levez de votre lit pour vous rendre dans la salle de bain. Si vous ne prenez pas votre douche dès le réveil, vous êtes sûr de passer une mauvaise journée. Vous avalez ensuite un café et vous vous dites que les donuts de chez Marion sont bons et que vous en mangerez un ou deux comme chaque matin sur le chemin pour vous rendre au bureau. Vous quittez votre appartement vers 7h45. Votre bus est à 7h55. Vous avez largement le temps de vous rendre à l'arrêt à pied. Vous êtes assez casanier et n'aimez pas beaucoup le changement. Toujours le même rituel du matin. Vous traversez la rue, toujours au même endroit. Vous arrivez à la station de bus, à 7h50. Justement, le voici qui arrive. Vous regardez votre montre et vous vous dites que ce matin, vous avez un peu d'avance. Pour une fois, vous décidez de prendre celui d'avant. Tant pis, maintenant que vous y êtes, vous n'allez pas attendre le prochain de 7h55. Vous vous installez malgré tout à la même place que d'habitude. Vous êtes un peu perturbé car il n'y a pas les mêmes voyageurs que d'habitude. Vos repères du matin sont chamboulés. Pour vous détendre, vous regardez par la fenêtre du bus. Les rues et le trajet sont les mêmes. Et ça vous rassure. Vous descendez à votre arrêt et vous faites le reste du chemin qui vous sépare de votre bureau à pied. Vous passez chez Marion pour acheter 4 de ces délicieux donuts. Vous prenez les mêmes parfums qu'à l'accoutumée. Pourquoi changer puisqu'ils sont bons? Vous sortez de la boutique et vous vous dirigez vers le sas d'entrée du bâtiment où se trouve votre bureau. À 10 mètres avant de pénétrer dans le sas, votre regard se pose sur un petit carnet noir gisant au sol. Vous arrêtez devant et regardez autour de vous pour voir si personne ne le cherche. Puis vous le ramassez et le mettez dans la poche intérieure de votre manteau. Arrivé dans votre bureau et après avoir salué tous vos collègues, comme tous les jours, vous enlevez votre manteau et vous le posez sur le dossier de votre chaise de bureau. Vous vous asseyez et en vous adossant à la chaise, vous sentez comme une chose dure, vous appuyant sur les omoplates. Vous fouillez votre manteau et en sortez le petit carnet noir. Mais oui, bien sûr, le fameux petit carnet noir. Vous l'aviez déjà oublié, celui-là. Vous regardez l'heure. Il est 8h25 et vous avez de l'avance. Vos collègues sont étonnés de vous voir arriver plus tôt. Vous décidez donc de regarder ce qu'il y a dans ce petit carnet. Sur la première page, il y a juste un prénom. Jean. Vous tournez les autres pages et vous pouvez y lire des petites phrases manuscrites à l'encre noire. Elles n'ont pas vraiment de sens. Elles se composent toujours de la même manière. Une date et un texte de 2 ou 3 lignes finissant toujours par une action assez étrange, parfois violente, parfois comique. Vous continuez de tourner les pages et vous vous arrêtez sur l'une d'entre elles. Le texte est à la date d'aujourd'hui. Vous pouvez y lire « Couloir blanc ». Tourne à droite, tourne à gauche. Troisième bureau. Fenêtre ouverte. Il saute par la fenêtre et atterrit dans la rue, sur le trottoir. À peine avez-vous fini de lire cette phrase que vous entendez un cri de femme strident retentir dans tout l'étage. Vous vous levez de votre chaise et courez hors de votre bureau pour voir ce qui pouvait bien se passer. Vous sortez donc dans le grand couloir blanc où sont situés plusieurs bureaux d'affilée. Un de vos collègues vous annonce qu'il y a eu un problème dans le bureau de Pierre. Vous décidez de vous y rendre en accélérant le pas. Vous tournez dans le couloir de droite, puis tout de suite après dans celui de gauche. Vous vous arrêtez soudainement, et machinalement, vous repensez au carnet noir. vous comptez les bureaux qui vous séparent de celui de Pierre. 1, puis 2, puis 3. Le troisième, c'est celui de Pierre. La porte est ouverte et plusieurs personnes se tiennent devant l'encadrement de la porte. Tous ont l'air terrifiés. Certains pleurent et d'autres courent dans tous les sens pour prévenir la direction. Vous vous approchez du bureau et une fois devant, vous pouvez voir que la fenêtre est ouverte et que les collègues de Pierre sont penchés pour regarder vers le bas. Une femme est assise au sol et répète sans arrêt la même phrase.
« Il a sauté. Il a sauté et je n'ai rien pu faire. »
Pendant les deux heures suivantes, on vous empêche de sortir du bâtiment car des ambulanciers et la police retirent le corps sans vie de Pierre, écrasé au sol. Vous entendez des bribes de discussion. Divorce, dépression, dette de jeu, alcoolisme. Vers 13h, un responsable du personnel vous annonce que vous pouvez rentrer chez vous. La société qui vous emploie a décidé de laisser à ses employés 3 ou 4 jours de repos afin d'encaisser ce qui venait de se passer. Vous repartez donc chez vous. Dans le bus du retour, vous sortez le carnet noir pour y jeter un œil. À nouveau, vous relisez le texte du jour. Couloir blanc, tourne à droite, tourne à gauche, troisième bureau, fenêtre ouverte, il saute par la fenêtre et atterrit dans la rue sur le trottoir. Comment était-ce possible? Comment la personne à qui appartenait le carnet pouvait savoir ce qui allait se passer? Vous tournez quelques pages pour tomber sur un autre texte, avec la date du jour. Croisement, voiture rouge et voiture blanche. Une tête roule, l'autre est coupée en deux. Ça vous laisse perplexe, au point que vous avez loupé votre arrêt. Vous vous en rendez compte trop tard et vous vous levez précipitamment pour demander au chauffeur de vous laisser sortir au prochain feu rouge. Normalement, il n'a pas le droit de le faire, mais vous voyant perturbé, il décide de vous ouvrir la porte. Vous descendez du bus et vous vous rendez compte que vous devez être à 2 ou 3 arrêts du vôtre. Vous vous apprêtez à faire demi-tour lorsque vous entendez un bruit terrible d'acier qui se cogne l'un contre l'autre. Vous vous retournez et vous apercevez 2 voitures accidentées, une blanche et l'autre rouge. Votre regard est haut et vous sentez quelque chose taper sur votre pied gauche. Vous baissez la tête pour voir une sorte de boule recouverte de fourrure. Vous donnez un petit coup de pied dedans. La boule se tourne d'un quart pour laisser apparaître un visage. Celui d'un homme, avec une expression épouvantable et torturée. Vous poussez un cri et reculez de 3 pas en manquant de tomber en arrière. Votre chaussure gauche est pleine de sang. Vous relevez le regard pour ne plus voir la tête décapitée du conducteur de la voiture rouge, pour observer celui coupé en deux au niveau du tronc de la conductrice de la voiture blanche. Celui-ci repose sur le capot après avoir traversé le pare-brise du véhicule. Vous n'en pouvez plus et vous vomissez les donuts de chez Marion dans une gerbe douloureuse et acide. Vous reprenez vos esprits et vous commencez à courir loin de cette scène d'horreur. Vous arrivez dans une petite ruelle et vous ralentissez le pas. Vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus où vous êtes. Vous décidez de vous asseoir par terre sur le trottoir pour faire le point sur la situation. Vous vous rendez compte que vous tenez toujours entre les mains le petit carnet noir mat. Instinctivement, vous l'ouvrez et vous tournez les pages dans un état presque hypnotique. Vous vous arrêtez sur un autre texte qui indique la date du jour. Ruelle déserte, bâtiment de briques rouges. Personne en danger, il faut la sauver. Couloir de velours rouge, tourne à gauche, tourne à droite pour... Vous n'avez pas le temps de finir de lire la phrase... qu'une femme vous interpelle de la fenêtre d'une bâtisse de briques rouges. Elle vous demande de l'aider car son mari veut la tuer. Elle vous dit qu'il est très énervé contre elle et qu'il est violent. Vous cherchez votre téléphone portable dans votre poche et vous composez le numéro de la police. Quelqu'un au bout du fil vous répond. Et pendant que vous pénétrez dans le bâtiment pour aider la femme, vous donnez à l'agent de police des détails sur votre situation. On vous demande alors l'adresse où vous vous situez et vous ne pouvez pas répondre. Vous ne savez pas quoi répondre. Lorsque vous pénétrez dans un couloir tapissé d'un papier peint qui, avec l'éclairage douteux, a des allures de velours rouge. Devant vous, plusieurs couloirs parsemés de portes d'appartements. Vous repensez au carnet noir en oubliant votre interlocuteur téléphonique. Tourne à gauche, tourne à droite. Non, non, pas cette fois. Vous décidez de ne pas suivre les directives du carnet. À chaque fois, ça s'est mal terminé. À chaque fois, la mort était là. Chaque texte amène à l'horreur et à la mort. Toute votre vie, vous avez suivi le même schéma, la même routine, les mêmes protocoles. Et voyez où vous en êtes. Alors vous faites demi-tour et vous vous apprêtez à sortir du bâtiment de briques rouges. Vous ouvrez la porte sur laquelle est inscrit « Sortie » en lettres noires. Vous n'avez pas le temps de réagir, que le couteau vous traverse le cou de part en part. Vous êtes stoppé net dans votre fuite. À l'autre bout du couteau, un homme vêtu de noir, son visage est marqué par la rage et la colère. Votre vision se brouille et vous finissez par ne plus rien voir. La seule chose que vous ressentez avant de sombrer, c'est la lame qui bouge dans votre gorge et qui continue de découper votre larynx. Vous relâchez le carnet noir de votre main lorsque votre corps touche le sol froid en béton gris du couloir de l'immeuble. On retrouvera plus tard votre corps ainsi que celui de la femme en détresse, égorgé par un mari jaloux. Sur la page tachée de sang du petit carnet noir, la police pourra y lire « Ruelle déserte, bâtiment de briques rouges, personne en danger, il faut la sauver. Couloir de velours rouge, tourne à gauche, tourne à droite pour en sortir vivant. » Passons à présent, cher amateur d'hémoglobine, à la deuxième histoire. Je l'ai intitulée « Le gâteau d'anniversaire ». Il est bientôt midi et je vais ouvrir les portes. Les premiers clients attendent que je leur donne l'autorisation d'entrer. J'ai 12 tables dans la petite salle. Je peux accueillir environ 30 couverts midi et soir. Mes clients sont pour la plupart des habitués et j'ai avec eux des relations amicales et de confiance. Certains d'entre eux viennent tous les jours. Et ça fait vraiment plaisir de les sentir à l'aise dans mon restaurant. Je connais tous les gens qui viennent manger ici. Leurs habitudes, leurs manies. Ce midi, deux nouveaux clients se sont installés à la table numéro 1. C'est celle qui est devant la baie vitrée, qui donne sur la rue principale. De là, on peut voir les passants faire leurs courses ou discuter. C'était une mère et son fils. Elle, la soixantaine, bien habillée, assez hautaine et bien coiffée. Lui, pas plus de 24 ans. Une carrure de rugbyman pour une taille s'approchant des 2 mètres. Une vraie masse de gras et de muscles, mais proportionnée pour en faire un colosse qui pourrait vous envoyer valser d'un revers de la main. Je me suis dirigé vers la table pour prendre leur commande. C'est la mère qui a décidé pour les deux. Lui est resté silencieux tout du long. Le regard vide, la tête légèrement baissée vers la table. Je les ai servis et en 40 minutes, ils avaient fini de manger et se dirigeaient déjà vers le comptoir pour régler. Elle me remercia pour le repas et partit du restaurant, en tenant la main de son fils toujours aussi amorphe et silencieux. Elle est revenue avec lui le lendemain et le jour d'après. La semaine suivante, ils étaient là tous les jours. Même table, même rituel du midi, même garçon mutique et catatonique. Au bout d'un mois, j'ai décidé de parler avec la dame et son fils. Pour faire connaissance, quoi. J'aime bien en savoir un peu plus sur mes clients. Je devais lui inspirer confiance car elle m'a dit tout ce que je voulais savoir. Elle s'appelait Geneviève et son fils Max. Ce n'était pas le diminutif de Maxime, non, c'était Max. Elle y tenait, et apparemment, lui aussi. Le père de Max est décédé il y a un an et ils vivent seuls dans le quartier. Elle m'a ensuite expliqué, sans me donner beaucoup de détails, que son fils était déficient mental et ne pouvait pas vivre sans tutelle. Un tel gabarit avec un esprit d'enfant, ça pouvait faire peur à certaines personnes. Elle continua en précisant qu'il devait prendre des médicaments pour stabiliser certaines réactions qui pouvaient poser problème en société. Je crois que ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il pouvait péter un câble sans ses pilules. Heureusement pour tout le monde, sa mère avait la situation bien en main. Jusqu'au jour où ils sont venus, un mardi midi, pour manger. Même table, comme d'habitude, à la différence que Max avait l'air plus énergique qu'à l'accoutumée. Plus éveillé et agité. Il tournait la tête de gauche à droite sans arrêt, comme s'il voulait voir la salle en entier pour la première fois. Et il a regardé les clients déjà installés. Je suis venu pour prendre leur commande et Max se mit à hurler
Je veux mon gâteau d'anniversaire. Je veux mon gâteau d'anniversaire. Je le veux. Je veux mon gâteau d'anniversaire, maman.
Sa mère, légèrement agacée, me dit que tous les ans, pour son anniversaire, elle lui laissait une journée de répit sans prendre de médicaments. Comme ça, il pouvait se souvenir de cette journée et surtout en profiter. La mère me demanda si je pouvais lui faire un petit dessert avec une bougie dessus pour marquer le coup. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de problème et que je lui apporterais dès la fin du repas. Malheureusement, il y a eu un sacré coup de feu au resto ce jour-là et j'ai dû aider le cuisinier qui avait du mal à s'en sortir tout seul. Du coup, j'ai complètement oublié la demande de la maman de Max qui a dû partir après avoir mangé, son fils devenant de plus en plus instable. Je m'en suis rendu compte quand ils sont sortis du resto pour rentrer chez eux. J'ai juste eu le temps de voir Max hurler qu'il voulait son gâteau d'anniversaire. Puis en sortant, il a agrippé sa mère par le bras pour lui demander son gâteau. J'ai vu le visage de la pauvre femme se crisper sous la pression de son fils. Et puis elle l'a attrapé par la manche de son blouson pour le tirer jusqu'à chez eux. Je suis venu en salle, et avant qu'il ne tourne dans la rue, j'ai pu entendre la voix grave et rocailleuse de Max qui réclamait, à qui voulait bien l'entendre, son gâteau d'anniversaire. Je suis retourné en cuisine pour finir le service. Après coup, je me souviens avoir eu des frissons dans le dos en repensant à la voix et au visage de Max. Une colère rageuse, emplie de haine, de violence. Son visage rouge, suant, tant il était frustré de ne pas avoir eu ce qu'il voulait. Après le service, j'ai demandé à mon responsable de salle si nous faisions bien d'ouvrir le soir même, car nous étions le 11 novembre, et il n'y avait pas de réservation. Alors, on a décidé de fermer pour profiter un peu de ce soir férié. Je suis donc rentré chez moi. Vers 4h du matin, j'ai reçu un message de la société qui gère l'alarme du restaurant. Quelqu'un avait essayé de forcer la porte d'entrée. Je devais y aller pour constater l'infraction. Une fois sur place, j'ai pu me rendre compte que le métal de la porte était plié. Qui que ce soit, il avait dû forcer avec un outil puissant pour déformer ainsi le cadre de la porte. Un des agents m'a pris à part pour me dire qu'ils avaient récupéré les vidéos des caméras de la rue et qu'ils savaient qui avait essayé de rentrer dans l'établissement. Je les ai suivis au commissariat du centre-ville et ils m'ont montré la vidéo. Je suis tombé des nues lorsque j'ai vu Max arriver devant le restaurant par la gauche de l'écran et saisir la poignée de la porte. Ensuite, il l'a poussée sans forcer, et celle-ci a commencé à se déformer. Et puis, comme il a compris qu'il n'y avait personne à l'intérieur, il est parti je ne sais où. Le policier qui s'occupait de moi m'a dit qu'il avait envoyé une équipe chez la mère de Max pour appréhender le jeune homme et lui demander des explications. Je lui ai dit qu'il avait des problèmes mentaux et qu'il n'était pas responsable de ses actes. Juste après, un appel de secours est arrivé au commissariat pour prévenir les agents sur place qu'il y avait eu un gros problème au domicile de Max et de sa mère. J'ai vu le regard du policier en face de moi, qui tenait le téléphone de sa main droite et prenait des notes de l'autre. Il a froncé les sourcils. Il a demandé sans cesse de répéter ce que la personne à l'autre bout du fil lui décrivait. Il a raccroché et m'a demandé de patienter dans la salle d'attente. J'y suis resté presque 3 heures quand quelqu'un venait me chercher pour me ramener chez moi. Ils m'ont expliqué qu'ils préféraient me garder auprès d'eux pour que je ne risque rien. C'est le lendemain que j'ai appris ce qui s'était passé chez Geneviève et son fils. Max, énervé de ne pas avoir eu de gâteau d'anniversaire, est venu au restaurant, pensant que j'y travaillais, et il était bien décidé à me le faire regretter. Ensuite, il est rentré chez lui, et il a tué sa mère pour passer ses nerfs. Les policiers l'ont retrouvé assis sur le fauteuil du salon, la tête de sa mère sur un plateau d'argent posé sur ses genoux. Il avait pris soin de placer des bougies sur le haut du crâne, emmêlées dans les cheveux de la défunte. La cire des bougies coulant sur les yeux et dans la bouche entrouverte de la tête sans vie. Les policiers m'ont révélé qu'ils n'avaient pas retrouvé d'armes ou d'ustensiles qui auraient pu servir à décapiter la mère. Max lui aurait arraché la tête avec ses mains, lui enlevant au passage tout le bas de la bouche, la langue et une bonne partie de la colonne vertébrale. Fait troublant, en faisant des recherches, ils ont aussi découvert que le père était décédé un 11 novembre dans des circonstances inconnues et que son corps n'était pas entier quand ils l'ont enterré. Lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, Max répétait sans cesse la même chose en boucle, et ce pendant des heures.
Je l'ai eu, mon gâteau. J'ai eu mon gâteau d'anniversaire. Je l'ai eu, mon gâteau.
Vous venez d'écouter Podcast Creepystory. Ce podcast est produit par moi, Dan, via La Sentence Prod. Si mes histoires vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille. Cela permettra au podcast d'avoir plus de visibilité. Retrouvez tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes de lecture de podcasts, comme Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer ou encore. N'hésitez pas à vous y abonner et à me laisser des commentaires et des étoiles afin de noter ce podcast. Tout ceci m'aidera bien sûr à l'améliorer pour vous convenir au maximum. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook, Podcast Creepystory, et m'y laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec des histoires qui, comme d'habitude, ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. Un petit mot de la fin ? Avec plaisir. Ne ramassez surtout pas les objets qui ne vous appartiennent pas. Certains d'entre eux ont des histoires qui pourraient rendre fous ceux qui cherchent à les découvrir. Bonne nuit.
Je l'ai vu, mon gâteau.